Alors, je vais reprendre un petit peu ce qui a été dit lors de cette première partie du colloque, puisque l'idée de ce colloque était vraiment de définir l'infirmier de demain et de voir comment on met en place une formation adéquate et efficace pour former des gens compétents. Puisque l'idée, et ça a été rappelé de nombreuses fois, est toujours de prendre en charge de la meilleure façon qui soit le patient. Alors, le premier gros point qui a été soulevé dans les propos liminaires, c'était que l'infirmier doit être capable de s'adapter aux évolutions de la demande de soins. On est dans un monde mobile où la demande de soins varie. L'attente du public n'est pas la même en 2010 qu'elle le sera en 2012. Et notre formation, elle doit être capable de nous former à suivre cette évolution pour qu'on soit toujours en phase avec la demande de soins. Alors, moi, il y a plusieurs choses qui m'interrogent, quand on parle de s'adapter à l'évolution. On a eu une réforme il y a très peu de temps, donc à l'heure actuelle, on est en pleine évolution. Cependant, cette réforme a été précédée par une réforme précédente qui datait de 1992. Ce qui veut dire que de 1992 à 2009, il n'y a pas eu d'évolution dans notre appareil de formation. Alors, je ne dis pas qu'il faut une réforme tous les ans. Ce que je veux juste souligner, c'est que d'un côté, on dit on veut des professionnels qui soient capables de s'adapter à un monde mobile, de suivre une évolution, et que de l'autre côté, dans leur appareil de formation, on les ancre dans quelque chose de statique. Comment un étudiant qui est ancré dans quelque chose de statique peut apprendre et se former pour être autonome et suivre une évolution du milieu dans lequel il évolue? Ça me laisse songeur. Je pense qu'on a tous des réponses à apporter pour cela. Et la première réponse qui me vient en tête, c'est la démocratie étudiante et c'est la participation des étudiants à justement faire vivre ce milieu dans lequel ils sont, que sont leurs IFSI. À l'heure actuelle, on a des conseils pédagogiques, et ces conseils pédagogiques, les délégués qui y siègent, ont une voix consultative. Donc, leur avis est pris en compte, mais la décision finale ne relève pas de leur pouvoir. Ce qu'on pourrait imaginer, c'est que ces conseils pédagogiques deviennent des conseils avec une voix décisionnelle. Ainsi, l'ensemble des acteurs de ce conseil, équipe pédagogique, formateurs, régions, ARS et étudiants, pourraient mutualiser les différentes visions qu'ils ont de l'appareil de formation et faire évoluer l'environnement de la formation de la façon la plus adéquate possible. Ça, c'était le premier point concernant la capacité à s'adapter aux évolutions. Le deuxième point, qui a été souligné de nombreuses fois, notamment en parlant de master, c'était de développer un champ d'expertise. Le champ d'expertise, c'est quoi? C'est le fait de pouvoir être autonome dans l'évaluation d'une pratique et d'avoir des connaissances et des compétences qui portent un savoir-faire, notamment en matière de rôle propre, qui reste le cœur de notre métier. Alors, je vais expliquer un petit peu mes propos. Beaucoup de personnes ont peur à l'heure actuelle que ces masters dénaturent notre profession et fassent de nous des professionnels qui seraient plus des professionnels infirmiers. Il ne faut pas oublier que ces masters suivraient une formation initiale qui est composée à 60% d'enseignements non universitaires, puisque à l'heure actuelle, il n'y a que 40% des enseignements universitaires qui... en fait, il y a 40% des enseignements qui doivent être universitaires pour arriver à une licence. C'est une condition sine qua non. Donc les 60% qui restent, ils sont faits par des professionnels de santé, qui sont la plupart du temps des infirmiers, qui assurent justement de conserver ce cœur de métier. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, puisque les masters qu'on veut développer, et ça fait des années qu'on défend ces masters, Ils sont juste là pour apporter une plus-value à la formation initiale. C'est pas on tire un trait sur la formation initiale et on va mettre en place des masters. Là, je pense qu'autour de la table, tout le monde est d'accord pour dire cela. Donc l'idée, c'est qu'on puisse imaginer plusieurs types de masters. Le premier type, c'est des masters de spécialisation dans un champ d'expertise infirmier particulier. Ça répond à de nombreuses demandes de la part déjà du public en matière de santé. Ça répond aussi à une crise démographique sanitaire. Et ça répond aussi à une demande des professionnels en termes de perspectives professionnelles, d'évolution de carrière. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est les masters en pédagogie. À l'heure actuelle, on a des formateurs qui ont un enseignement à la pédagogie extrêmement limité. Les formateurs que nous avons actuellement sont des formateurs qui sont cadres de santé. La formation d'un cadre de santé, c'est majoritairement composé de management. Qu'en est-il de la pédagogie ? Est-ce que, à ce jour, il est encore concevable que des étudiants aient des apports qui soient faits par un manager ? Ou est-ce que ça vaut le coup de développer la pédagogie comme une perspective professionnelle à part entière ? Je pense qu'on formule tous la même réponse et ça me rassure. Ensuite, comment ? Oui, le CFIEC demande un droit de réponse, on lui accordera. Ensuite, les masters de recherche. Les masters de recherche, ça permet quoi ? Ça permet justement aux infirmiers d'avoir une vision critique sur leur profession au quotidien, mais avec le regard de l'infirmier. Avec ce regard si particulier qui fait qu'à l'heure actuelle, on est meneur en matière de santé concernant la prise en charge globale du patient. Est-ce que une recherche en soins infirmiers aujourd'hui doit être obligatoirement accolée au corps médical ? Je suis convaincu que non. Et c'est la position de notre conseil d'administration. C'est que la recherche en soins infirmiers doit être une recherche autonome. C'est-à-dire que cette recherche-là, elle doit être fondamentale dans la discipline qui est la nôtre. Et elle ne doit pas servir des disciplines connexes. C'est une condition sine qua non pour améliorer la prise en charge des patients. Et c'est là toute l'importance des propos qu'on tient depuis tout à l'heure, améliorer la prise en charge des patients. Ensuite, troisième point, on a parlé d'évaluation des pratiques professionnelles. Alors, il est évident qu'un étudiant qu'on responsabilise et qui est autonome va mettre en place une auto-évaluation de ce qu'il fait durant ses années de formation. Et le fait d'autonomiser et de rendre responsable un étudiant pendant ses années de formation, il va mettre en place des compétences et des savoirs justement concernant une auto-évaluation de ses pratiques dans son IFSI, mais aussi dans son stage. Eh bien, ces compétences, une fois qu'elles sont acquises, elles sont acquises. Et donc, quand il va devenir professionnel, ça lui permettra d'avoir un regard critique sur sa pratique, sur la pratique générale du service. Et donc, ça lui permettra de prendre du recul sur les choses, d'évaluer les choses et de les adapter pour faire en sorte de toujours les améliorer. Donc, on est toujours dans l'amélioration de la prise en charge du patient. Alors, on va revenir un petit coup sur la démocratie étudiante, du coup. Et oui, c'est un grand débat. À l'heure actuelle, les étudiants n'ont pas l'autonomie et n'ont pas les responsabilités qu'ils méritent, qu'ils devraient avoir et qu'ils réclament depuis des années. À À l'heure actuelle, un étudiant dans un IFSI est contrôlé au même titre qu'un lycéen, j'ai envie de dire. Même si je suis d'accord que je caricature pour souligner mes propos, mais je caricature extrêmement légèrement. Nous avons des pairs qui sont dans d'autres systèmes pédagogiques, qui sont beaucoup plus autonomes, et pour qui le fait de se prendre en main et d'être acteur de sa formation, mais soyons-le, acteur de notre formation, mais pour l'être, donnons-nous-en les moyens. À l'heure actuelle, est-ce qu'on a les moyens d'être réellement acteur de notre formation? C'est une question qu'on peut se poser. Merci de la réponse. Et pour finir, un des gros points qui a été abordé aussi, c'était le fait de générer des savoirs. Alors, générer des savoirs, c'est quoi? C'est comment ça se fait déjà? Pour générer un savoir, on part d'une situation la plupart du temps, et cette situation, on l'analyse avec notre démarche réflexive et des savoirs déjà existants. Cela crée de nouveaux savoirs, mais créer un savoir pour créer un savoir, ce n'est pas une fin en soi, c'est complètement inutile. Si on crée un savoir et qu'on le jette, il n'est pas utilisé, il n'y a aucun intérêt. Alors, dans la création de savoir, il y a plusieurs problèmes qui se posent à nous. Le premier, c'est que je vous disais, on analyse une situation à l'aide de savoirs déjà existants. À l'heure actuelle, est-ce qu'on a accès à tous les savoirs déjà existants? C'est la première question. Est-ce que, où trouve-t-on les savoirs? Dans une bibliothèque? Est-ce que les bibliothèques des IFSI sont assez fournies? Est-ce que les bibliothèques des universités sont assez fournies? Oui. A-t-on tous accès aux bibliothèques des universités? Non. Est-ce que c'est possible avec notre mariage territorial? Non. Peut-on imaginer des systèmes de mutualisation des documents, des ouvrages, qui puissent être transférés d'une bibliothèque à une autre par des conventionnements? Oui, c'est quelque chose de faisable. C'est quelque chose de pragmatique. On a des solutions. Il faut juste les mettre en place. Donc ça, c'était pour l'accès au savoir. Alors, le savoir, qui vous l'apporte? Avec la nouvelle réforme, il y a un système de tuteurs de stage qui a été mis en place. Ces tuteurs de stage sont censés valider vos compétences et vous amener à vous approprier les compétences en vous orientant durant votre cursus de stage. Le problème, c'est que pour apporter quelque chose à quelqu'un, il faut savoir ce qu'est ce quelque chose. À l'heure actuelle, on fait tous le même constat. Les tuteurs de stage sont soit trop peu formés pour une minorité, soit pas formés du tout pour une majorité. Aujourd'hui, il va falloir qu'on trouve des solutions pour former ces tuteurs, parce que c'est de ça que dépendra aussi la qualité de notre formation. On fait tous le même constat, et je pense que, pour le coup, Madame Kozlowski ne demandera pas de démenti. On fait tous le même constat. Les tuteurs, aujourd'hui, nous posent un gros problème. Ça n'a rien de personnel, hein. C'est juste qu'ils n'ont pas les moyens. Et pourquoi ils n'ont pas les moyens? Ça a été dit, la réforme a été mise en place de façon précipitée. Les équipes pédagogiques, alors oui, on sait dire, les équipes pédagogiques n'ont pas le niveau pour nous enseigner certains nouveaux enseignements. Mais on est tous d'accord, pourquoi ces équipes pédagogiques n'ont pas le niveau? Parce qu'on ne leur a pas donné forcément les moyens d'avoir les niveaux. Donc on a abordé les savoirs cliniques avec les tuteurs et les savoirs théoriques avec les équipes pédagogiques. Maintenant, on va aborder le fait de créer des savoirs. Alors créer des savoirs, ça se fait via la recherche. Et pour cadrer la recherche, il y a un organe qui est compétent et un seul pour cadrer réellement une vraie recherche avec des savoirs qui sont générés de façon cadrée, de façon méthodologique et qui donc sont des savoirs certifiés que l'on peut réinjecter dans le système de soins pour l'améliorer, il y a un seul acteur qui peut faire ça. C'est le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. À l'heure actuelle, on a un système de conventionnement où le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche met un coup de tampon sur notre diplôme sans forcément aller voir ce qui se passe au niveau de la pédagogie. En tout cas, s'il le fait, il ne le fait pas de façon assez incisive. Aujourd'hui, ce qu'on voudrait, c'est que le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche puisse avoir accès justement à la recherche qui est créée par les infirmiers et aux savoirs qui sont engendrés pour faire en sorte que ces savoirs ne tombent pas en désuétude. Parce que si on crée des savoirs pour créer des savoirs, c'est cool, on a de la recherche. C'est bien beau d'avoir de la recherche. Mais pourquoi ? Pour qui ? Pourquoi ? Pour améliorer le système de soins ? Pour qui ? Pour les personnes soignées. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Alors, premier point très important, parce que c'est un point d'urgence, j'en ai parlé, vous avez très largement réagi sur ce sujet, c'est la formation des tuteurs. Là, il va falloir qu'on travaille avec le ministère de la Santé très rapidement dessus pour trouver des moyens de reconnaître ces tuteurs. Les reconnaître comment ? En valorisant le travail de tuteur, en donnant du temps au travail de tuteur. Le travail de tuteur, c'est un travail qui demande énormément de temps. À l'heure actuelle, c'est un travail qu'on a rajouté sans donner de temps. Et on est d'accord qu'on ne veut pas non plus pénaliser le système de soins en retirant des infirmiers, parce que ces infirmiers-là vont être tuteurs. C'est du temps perdu auprès des patients. Donc là, il faut trouver un moyen. Et il faut faire quelque chose de façon extrêmement rapide, puisque là, on est vraiment dans l'urgence. Le deuxième point, je vous en parlais à l'instant, c'était le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. On est d'accord que c'est bien de faire de la recherche et que l'Enseignement supérieur et la Recherche est garant de la qualité de la recherche. En revanche, qui va être garant du fait que cette recherche va être injectable dans le système de santé ? C'est le ministère de la Santé. Et là, c'est une invitation que je vous fais, et j'espère, Monsieur Sansalon, que cette invitation sera remontée. Une des propositions qu'on fait, c'est la création d'un groupe de travail où l'ensemble des acteurs se réuniraient autour d'une même table. Étudiants, professionnels, ministère de la Santé et ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et enfin, ensemble, mutualiser notre point de vue et pouvoir créer quelque chose, créer la formation de demain, qui soit une formation complète, avec de la recherche, avec des spécialisations au niveau de master pour ceux qui le souhaitent, et avec une formation initiale de qualité, puisque tout le monde n'aspire pas forcément non plus à passer un master ou à passer un doctorat. Et puis, le dernier point, on va reparler des formateurs. Alors, on parlait de master en pédagogie. C'est une très bonne chose, c'est une très bonne idée. Une de nos positions aussi, c'est le fait d'avoir des formateurs qui soient des formateurs praticiens. On est tous d'accord pour dire qu'à l'heure actuelle, les formateurs sont des acteurs du système de santé incontournables. En revanche, ils ne sont pas directement impliqués dans le soin. Et là, ça peut poser certaines problématiques, puisque le monde du soin évoluant de façon extrêmement rapide, on sait que les formateurs font un travail de fond tout au long de l'année pour tenir à jour leurs connaissances, leurs compétences. On ne remet pas du tout ça en jeu. Seulement, un formateur qui ne va pas sur le terrain pratiquer réellement, va avoir un temps de latence entre le fait de capter l'information qu'une nouvelle pratique est instaurée dans un service, de la décortiquer et de la restituer aux étudiants. Eh bien, ce temps-là, il pourrait être gagné si le formateur, tout comme l'étudiant, s'inscrivait dans un système d'alternance. Alors après, les proportions restent à définir. Dans un système d'alternance entre, d'un côté, je suis formateur et de l'autre côté, je suis praticien. C'est des choses qui existent déjà pour certaines formations. Je pense notamment au poste de PUPH, professeur des universités d'un côté, côté enseignant, professeur hospitalier de l'autre côté, côté praticien. Voilà pour les trois principaux points à développer dans le futur appareil de formation de demain, qui sont des points sine qua non pour avoir un appareil de formation qui soit efficace, qui nous forme de façon correcte, toujours au service des patients.